Alors, est-ce que tu peux te présenter pour commencer? Me dire comment tu t'appelles?
Voilà, je m'appelle Hector Espinola, je suis Chilien d'origine, ou Chilien tout court. Je suis arrivé en France l'année 85. Et une deuxième vague, je pense, des gens qui partaient, et vu les conditions de dictature qui existaient au Chili.
Est-ce que tu peux nous expliquer justement quelles sont vraiment les raisons concrètes qui ont fait ton départ?
Bon, en fait, c'est deux choses. D'abord, j'ai milité dans une organisation politique et j'ai travaillé à la Commission des droits de l'homme. Auparavant, j'avais travaillé au Vicariat de la solidarité qui s'occupait de soutenir ou d'aider des points de vue juridiques et médicaux aux familles et aux prisonniers politiques. Donc, j'ai participé dans des organisations liées à communauté chrétienne de base à Pudahuel, un quartier ouest à Santiago, qui avait à peu près, bon, ces communes avaient 300 000 habitants. Donc je suis venu étudier et là j'ai pris la décision ici, sur place, de devenir un réfugié politique.
D'accord. Tu avais des menaces particulières qui ont fait que t'es parti du Chili ou?
En fait, on est parti du Chili, et c'est anecdotique, parce qu'une grande partie des gens, il n'y avait pas de conditions pour continuer à vivre normalement au Chili. Je parle de l'année 85, qui a eu une forte vague répressive. Entre autres, il y a eu des militants qui ont été assassinés, militants communistes, très tristement célèbres, les trois égorgés qu'on appelait à l'époque. Et moi, j'ai tourné de maison en maison, parce qu'en étant dirigeant d'un quartier assez populaire qui organisait des protestations contre la dictature, il n'y avait pas les conditions de sécurité pour rester dans une seule maison. Donc, c'était ça à peu près, mais pour tous les gens qui prenaient des jeunes, disons, on était très jeunes à l'époque, des responsabilités politiques pour organiser la résistance à la dictature.
T'avais quel âge à l'époque en 85?
Quand je suis arrivé en France, j'avais 26 ans.
Donc c'était difficile, j'imagine, de quitter le Chili. Enfin, il y avait cette obligation du fait de la situation politique, mais quitter son pays, c'est jamais facile.
Bon, c'est jamais facile partir, bien sûr. Surtout que j'avais une petite famille, et la même famille que je conserve aujourd'hui. Et que les conditions. C'était difficile d'expliquer. Bon, un jour, on fera plus de lumière sur ça, parce que les gens qui. Il y avait deux sortes de personnalités ou de personnes qui luttaient contre la dictature. C'était la résistance dans les quartiers populaires, bien sûr, qui payait les plus larges tributs en vie humaine et en répression. Mais aussi, il y avait une résistance plus institutionnelle, qui sont ceux qui finalement ont négocié avec les militaires pour faire revenir ces démocraties très particulières qui existent aujourd'hui au Chili.
Mais il y avait encore des négociations possibles en tout cas.
Bon, c'est l'histoire. Il y a toujours eu des négociations dans tout conflit, il y a toujours des moments de négociation. Par mémoire, même en Europe, dans les pires moments, il y avait toujours des ponts qui s'établissaient. Mais ces ponts qui se sont établis au Chili, à mon avis, bien sûr, c'est un avis très personnel, ont été défavorables au mouvement populaire, c'est-à-dire à ceux qui ont lutté pas juste pour le rétablissement de la démocratie bourgeoise. On luttait pour établir une démocratie populaire qui permettait l'émergence du peuple dans des décisions. Quand je veux dire des peuples, ce n'est pas les partis politiques comme au destacement spécialisé, c'était l'ensemble du peuple chilien.
Avant de parler de ton arrivée en France, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ce que c'était que la dictature pour toi? Tu l'as vécu du coup de 73 à 85 sur place. Peut-être pas dans les détails, mais juste pour les gens qui ne sont pas au courant, enfin qui connaissent forcément les noms de Allende et de Pinochet, mais qui ne savent pas exactement ce que c'était peut-être la vie au quotidien. Comment tu peux décrire un petit peu
Pour décrire la dictature, il faut décrire d'abord ce qui était la période d'une unité populaire. J'avais 13 ans au moment du coup d'État, c'était mardi 11 septembre. Hein. Donc, mon père était un cheminot, syndicaliste, socialiste. Donc, je peux dire que pendant la période de l'unité populaire, j'étais gamin, mais je me suis rendu compte qu'il y avait une énorme liberté, une énorme, disons, comment on peut dire, une montée en puissance des travailleurs. C'est-à-dire, il y avait plein de droits, il y avait des accès libres aux universités, la culture. Parce que, contrairement à ce qu'on peut imaginer, Allende était un marxiste, était aussi un franc-maçon, mais son gouvernement était composé de marxistes, de laïcs et de chrétiens. C'est lui-même qui l'a dit dans un discours célèbre très important dans l'université de Guadalajara au Mexique. Donc, l'époque de l'unité populaire, c'était une époque d'énorme liberté. C'est une époque où les pauvres, les prolétaires, les travailleurs, les paysans sentaient qu'ils s'étaient vraiment dignifiés et pris en compte. Donc, il y avait une culture importante, parce que le moment de l'unité populaire, qui c'est le résultat d'un long chemin de lutte du peuple chilien, c'était aussi un moment global. Il n'y avait pas que les discours politiques, il y avait une proposition culturelle, une proposition musicale, une proposition littéraire. Il y avait des grandes figures comme Pablo Neruda, qui était encore vivant et qui donnait beaucoup de force à ce mouvement. Il y avait des musiciens qui commençaient un mouvement émergent, comme revenant à la question musicale qui m'intéresse, c'était la nouvelle chanson chilienne qui prenait de l'essor, inspirée des luttes et accompagnatrice aussi de tous ces mouvements populaires.
Et donc du coup, toi, tu te souviens quand tu avais encore 10-13 ans à cette époque-là, et le basculement, du coup, le 11 septembre 73 et toutes les années qui suivent, comment toi, tu peux nous raconter un petit peu ce que c'était?
Bon, le basculement était brutal, surtout parce que je ne peux pas dire que j'étais conscient politiquement, parce que là j'étais un préadolescent. Mais c'est vrai que les premières activités de résistance, c'était que le lendemain du coup d'État, j'ai reçu un roméo dans les jardins de mon quartier, de ma maison où j'habitais à l'époque, les discours d'Allende. Donc, il y a eu quand même une résistance. Et le basculement était brutal parce que d'abord, c'est l'année où j'ai entré au lycée. J'ai sorti de l'école primaire, au Chili, la primaire, c'est 8 ans, et j'ai entré au lycée. Et donc, le lycée, c'est manu militari quelque part, parce qu'on devait tous les lundis être formés devant les drapeaux, interpréter ou chanter l'hymne national. C'est la sorte de Marseillaise chilienne. Et des beaux mots, mais qui perdaient du sens devant. J'ai vu les bombardements du Palais de la Moneda par télévision. J'ai vu passer les avions qui bombardaient la Monnaie, les palais du gouvernement. Et donc, les cadavres dans les côtes du fleuve, et la répression qui s'abattait. Je n'ai pas vu mon père pendant quelques mois. Hein. Je ne savais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais je savais que c'était terrible parce qu'on a dû soit enfuir par terre ou brûler des livres, et c'est de faire des disques. C'était l'autocensure, c'est des fois plus terrible que la répression même, mais c'est des choses qui ont été pratiquées un peu partout dans les quartiers populaires. J'habitais à l'époque un quartier populaire avec mes grands-parents qui n'étaient pas des gens très conscients politiquement, mais c'était des gens modestes. Donc la répression s'est abattue surtout et a eu une prise immédiatement sur le système éducatif, qui était, je peux dire, à peu près militarisé, cheveux courts, uniforme et inspection tous les jours pour savoir. Donc, mais ça, c'est la répression contre les jeunes, disons, si on peut parler comme ça, c'est monté de petit à petit, hein, pour aboutir dans les années 77 à peu près, avec une grande réforme qui a supprimé, qui a donné un statut différent aux universités, qui ont commencé à ouvrir les portes au libéralisme économique. Oh, je pourrais parler des heures de ça, mais bon, voilà.
C'est vrai qu'on pourrait raconter, mais on va accélérer un petit peu pour arriver au sujet qui nous intéresse. Toi, quand tu pars en 85, pourquoi la France? Et t'arrives où en France? Comment ça se passe cette organisation de l'exil finalement?
En fait, les Chiliens, par tradition, c'était politiquement bien organisé, étant donné que j'avais déjà travaillé, collaboré, travaillé pour le Vicariat de la Solidarité, et que j'ai été le portier, si on peut dire, celui qui était à l'accueil, les premiers rideaux dans la Commission des droits de l'homme. Et donc, j'avais des contacts. Donc, on m'a proposé venir en France, et on a accepté. Après réflexion, ma fille, elle avait 2 mois quand on est venu en France. Donc, il y a une proposition de venir à la Université catholique de Lyon, l'Institut d'études sociales. Donc, j'ai fait les premières années, mais bon, je n'avais pas la langue française à la tête.
Mais il y avait
Et
déjà des liens en tout cas
il y avait des liens par organisation politique, hein,
avec la France et
avec la
avec les
France.
cathos en
Ouais.
particulier.
Comme anecdotique, un jour que j'étais en cellule, bon, dans un commissariat, un jour que j'étais détenu à Santiago, j'étais détenu avec un Français, un 1er mai, qui était membre de la commission de justice et paix. Donc, parce qu'en étant dirigeant du quartier, hein, je peux pas, comme il n'y a pas l'équivalent en France, mais après la dictature. La façon de résister, c'est parce qu'il y avait aussi une église populaire liée à la théologie de libération. Il y avait beaucoup de curés étrangers, des Irlandais dans mon quartier. Donc, on utilisait, dans le bon sens, la structure de l'église de base pour réorganiser un peu les mouvements populaires. C'est-à-dire, on avait des ateliers de théâtre, on avait des ateliers de guitare. Et on avait aussi des ateliers de réflexion sociopolitique. C'était une façon de résister. Et aussi, il y avait des organisations de subsistance comme Achetons Ensemble, où tous les gens mettaient un petit peu d'argent pour acheter un gros et on redistribuait à prix comptant, par exemple. Il y avait une autre chose importante, il y avait une équipe de santé qui pouvait éventuellement soigner les blessures. Je parle des années. À peu près entre les années 78 et 85.
85 ton départ. Du coup, c'est par les liens qu'il y avait déjà donc avec la catho, la faculté catholique, que toi tu arrives à Lyon. Et
Oui.
comment ça se passe ici? Du coup, il y a déjà une communauté de réfugiés chiliens qui est déjà présente, qui organise l'accueil des nouveaux réfugiés. Comment est-ce que tu peux nous...
Bon, plus ou moins comme ça, les liens, c'était à l'époque avec les CCFD, c'est le Comité catholique contre la faim et pour le développement, qui soutenait quelques projets, étant donné que je venais du monde chrétien de gauche. Et c'est peut-être difficile de comprendre pour les Français, mais l'Église chilienne, heureusement, hein, fort heureusement, une partie de l'Église chilienne s'était engagée à côté du peuple, au moins. Je parle de hiérarchie pour défendre quelques droits, les droits humains. On a reparlé que 78, il y a eu un grand événement au Chili organisé par l'archevêché de Santiago, que c'était le premier symposium international des droits de l'homme. Donc, en pleine dictature, il fallait le faire. Voilà, mais pour venir en France, il y avait ça, la convergence de plusieurs éléments. Donc, ils m'ont permis d'arriver en France et la décision de rester s'était prise après. Parce que, malgré qu'on avait le statut de réfugié politique, on a essayé, une fois que le changement a été fait, 90, d'y aller, après 5 ans, d'y aller au Chili. On a resté 3 mois pour voir qu'est-ce que ça donnait. Mais bon, on était très déçus parce que, en fait, et comme je disais tout à l'heure, il y a eu une négociation qui était défavorable aux gens qui sont battus pour autre chose, pour une démocratie qui c'est disons, un mime de démocratie qui simplement se charge de gestionner un modèle néolibéral où les droits des travailleurs sont loin d'être accomplis.
En France, comment ça se passe donc quand tu arrives? Tu es tout de suite en lien avec Villeurbanne ou comment?
En fait, j'ai eu connaissance de l'Association France-Amérique latine de mon arrivée. Parce qu'il y avait des organisations politiques chiliennes qui travaillaient, c'est pas sous couverture, mais c'était traditionnel au Chili, et ça se reproduit un peu partout, les Chiliens qui étaient politiquement conscient, disons, de créer des structures pour soutenir les combats, ou soit par soutenir leur parti d'appartenance, ou soutenir des projets de solidarité, soutien au Chili. Bien sûr, l'Association France-Amérique latine, il n'y avait pas que des Chiliens, il y avait des Argentins, des Uruguayens, même il y a eu des Brésiliens, parce qu'il faut se dire que les coups d'État en Amérique latine ont commencé en 1964 au Brésil, hein. Au Brésil, suivi le Chili, si je me rappelle bien, l'Uruguay, non, le Chili, pardon, Brésil, Uruguay, Chili, Argentine. Donc c'est la mainmise contre ces mouvements populaires, hein, un peu partout. Et c'est bien sûr derrière ça, il y a eu les États-Unis qui soutenaient et appuyaient financièrement tous les putschistes.
Et donc pourquoi il y a eu, particulièrement à Villeurbanne, plein d'exilés sud-américains?
Moi, je pense que Villeurbanne, étant donné que c'était une ville, il faut se rappeler, c'était plutôt ancrée à gauche, même si gauche socialiste, ça ne veut rien dire aujourd'hui. Peut-être, ça ne veut rien dire. C'est l'histoire qui doit confirmer tout ça.
Est-ce que c'était une autre gauche à l'époque que celle d'aujourd'hui, en tout cas?
Moi, je pense que c'était plus clair idéologiquement à l'époque. On a perdu un peu les choses, c'est-à-dire l'idéologie est passée en deuxième plan aujourd'hui. Mais je veux dire qu'à Villeurbanne, il y avait effectivement une association qui était Rouge et le Ballet et qui animait des activités culturelles, politiques, parce que la culture et la politique, ça fait partie de la même chose. Hein. Et ça m'a permis d'entrer en contact avec mes compatriotes ici. Ça nous a permis d'entrer en contact avec nos compatriotes, de participer. Et d'apporter un peu à la lutte.
Alors, est-ce que tu peux nous expliquer peut-être un petit peu mieux justement comment qu'est-ce qui s'organisait à Villeurbanne pour soutenir la résistance au Chili, mais aussi en Argentine, enfin en tout cas peut-être avec l'exemple du Chili?
Oui, je veux dire qu'il n'y avait pas que la FAL, bien sûr, mais dans mon cas particulier, j'étais plus lié à la FAL. Il y avait aussi un comité très important, proche du, disons, proche, qui soutenait les MIR. Que c'était le comité de solidarité avec la lutte révolutionnaire du peuple chilien. Et donc, pourquoi ça? Bon, c'est la tradition organisationnelle chilienne, mais je pense qu'il y avait cette même tradition dans des autres pays. On soutenait la culture fait quelque chose. Disons, rappelons-nous que Goebbels disait, quand j'entends les mots culture, je sors mon revolver, la culture. Et même au Chili, c'était un outil formidable pour réveiller les consciences. Mais on peut revenir, juste revenir un petit peu en arrière pour dire que, quand je disais que des choses importantes au Chili de résistance, c'était se regrouper autour des communautés de base, ça pouvait être aussi un syndicat, mais un facteur important, la musique. Parce qu'il y a eu toute cette tradition de Violeta Parra et des artistes. Et donc, la première manifestation concrète, disons, de résistance que j'écoutais en étant après le coup d'État, c'était une chanson. Une chanson de Patricio Mans, un écrivain et poète et musicien chilien, qui a vécu en exil aussi ici en France, et qui s'appelle El cautivo de Tiltil, et qui parlait justement des libérateurs du Chili à l'époque de l'indépendance, et qui était un guerrillero. Voilà, c'est ces chansons qui, juste qu'on a changé quelques mots pour la faire passer publiquement, mais c'est une des premières manifestations musicales de résistance. C'est intéressant de dire parce que ces petites manifestations se reproduisent un peu partout dans les quartiers populaires de Santiago.
En tout cas, c'est une chanson emblématique pour toi et pour la résistance chilienne.
Bien sûr.
Ouais. Tu peux la chanter?
Oh, Dieu! Por unas pupilas claras que entre muchos sables viera relucir, y esa risa que escondía no sé qué secretos, y era para mí. Y bueno, ¿qué es que yo? Ça c'est. J'ai pas. Ça me. Ça fait. J'ai pas un chanteur, hein, mais. Le llaman el guerrillero. De la libertad. On l'appelle les guerrilleros de la liberté. Donc, l'histoire raconte quelqu'un, c'est libérateur, qui a été trahi par un autre qui avait beaucoup de soif de pouvoir, et on l'envoie pour se faire tuer dans un endroit perdu vers Santiago. Et donc, ces chansons de Patrice Mann représentent, c'est important parce qu'après, c'est Manuel Rodríguez, le guérillero. Et Manuel Rodríguez, ça a donné le nom à un mouvement armé, que c'était le Front Patriotique Manuel Rodríguez, et qui essayait d'éliminer Pinochet. C'est justement parce qu'à partir des années 80, il y avait eu la possibilité de la disjonctive de faire un soulèvement populaire. C'est pour ça que les négociations ont anéanti cet espoir parce qu'en fait, le problème, je parle de révolution, là, le problème restait sur place. C'est-à-dire, on a changé le gouvernement de Pinochet, mais on n'a rien changé de tout parce que le système économique imposé, c'est le même. Donc, ceux qui sont rebelles, ceux qui ont lutté et qui ont pris les armes, et pas seulement les armes, ceux qui voulaient changer radicalement un système d'oppression, ont été quelque part trahis. Et donc, c'est pour ça que la première chanson, c'est important. Parce que ça reflète à peu près l'impossibilité qui était anéantie. Et qu'aujourd'hui, bon, le mouvement populaire chilien, il est très diversifié dans la dispersion. Il n'y a pas une autre proposition globale encore pour changer la société.
Revenir à Villeurbanne, est-ce que tu peux nous, peut-être nous, est-ce que tu as des souvenirs d'actions concrètes de solidarité qui s'organisaient avec le Chili, je sais pas, des concerts ou à quoi tu as participé toi comme action concrète?
En fait, j'ai participé beaucoup comme spectateur. Et c'est une deuxième anecdotique, hein, parce que j'étais étudiant de français à la Cato, aussi, pendant que le matin j'allais au cours de français, l'après-midi au cours de sciences sociales. Mais une des premières activités que je suis allé à Villeurbanne, au Centre culturel œcuménique de Villeurbanne, ce n'est pas pour le Chili, ce n'est pas pour l'Amérique latine, c'est une commémoration de la massacre de Chabre et Chatila, au Liban. Et parce que dans le cours où j'étudiais français, il y avait des jeunes palestiniens. Donc, logiquement, je suis allé. Et c'est ma première manifestation, disons, politique en France, à laquelle j'ai assisté avec ma compagne. C'était une manifestation pour la Palestine. C'est important de dire parce que la Palestine aussi est très présente au Chili. Et j'avais assisté au Chili déjà des réunions de la. De bureau d'information palestinienne. Pourquoi je le dis? Parce que la lutte, quand on parle d'Amérique latine, mais ça dépasse largement l'Amérique latine. Allende, s'avait rendu, par exemple, en les pays africains, en Algérie, tout ça. Il y avait à l'époque le mouvement des pays non alignés. Donc il y avait toute une réflexion alternative qui a été écrasée, bien sûr.
Donc c'était vraiment une lutte beaucoup plus globale, plus que communautaire, en tout cas pour toi.
Oui, bien sûr. Pour moi, la lutte d'ailleurs Allende, il projetait la lutte de façon latino-américaniste. C'est-à-dire, il n'y avait pas que le Chili. Il y avait d'ailleurs Allende s'est rendu au Mexique. Un jour, ça t'intéresse, il faut écouter ce discours. Absolument, c'est le discours qu'il a fait à l'Université de Guadalajara au Mexique. Donc, il y avait ce sentiment. Il y avait eu 59 la révolution cubaine qui portait un espoir, mais il y avait aussi Allende, parce que la différence, c'est que la révolution cubaine était une révolution armée, et la révolution chilienne, l'utopie d'Allende, c'était d'aller par les chemins de la démocratie bourgeoise et la transformer. Ce n'était pas la garder, la transformer. Voilà,
Un peu
c'est
comme Chavez, en fait, on peut, si on fait un.
40 ans en arrière, après, bon, Chavez, oui, pourquoi pas. Mais idéologiquement, si tu dis, Allende était très précis parce qu'il n'était pas. Il s'avait déclaré marxiste, maçon. Et le gouvernement était très, très. Idéologiquement, les choses étaient bien établies. On peut discuter s'il était réformiste, on peut discuter s'il était révolutionnaire. Ça, c'est une éternelle discussion entre Chiliens. Mais je veux dire que Chavez, la proposition d'Allende, les 40 mesures du gouvernement d'unité populaire étaient clairement révolutionnaires. C'est pour ça qu'il ne faut pas oublier que des fois, on doit analyser la réaction de l'ennemi et la réaction des États-Unis. Nixon a dit pourquoi on laisse ce fils de pute prendre le pouvoir au Chili, en se référant à Allende. Et donc, du premier jour, même avant, ils ont essayé d'aborder le gouvernement de l'Unité populaire. La même chose qu'ils font aujourd'hui au Venezuela ou qu'ils essayent de faire en Argentine, mais ce n'est pas par les moyens de l'armée, parce qu'au Venezuela, exceptionnellement, l'armée elle est avec les changements, parce que ce n'était pas une armée bourgeoise. Et en Argentine, oui, il y a un danger. Mais pourquoi je reviens toujours au présent? Parce que aujourd'hui, il y a pas beaucoup d'enrées alimentaires. Au Venezuela, il y a la queue pour acquérir quelques produits, par exemple. Mais ça me rappelle beaucoup le Chili, parce que au Chili, il fallait faire la queue pour s'acheter à manger. Mais curieusement, le lendemain du coup d'État, tous les étagères des supermarchés étaient remplies. Voilà. Tu vois, donc il faut faire attention.
Alors si on revient, parce que c'est quand même ça qui nous intéresse aujourd'hui, même si tout est très intéressant, donc première action, participation à une action politique en France, c'est en solidarité avec les Palestiniens suite au massacre de Sabra et Shatila. Mais est-ce qu'il y a quand même dans tes souvenirs des actions, des choses plus avec la communauté sud-américaine et en particulier avec le Chili?
Voilà, il y avait des rencontres au local de la FALG, sur Roule-Ballet, à Villeurbanne. Donc, il y a eu des concerts des groupes emblématiques, Ijapu, par exemple, et Osvaldo Torres, qui était exilé. C'était drôle de dire aussi. Et il y avait des activités, ce qu'on appelle les peñas. Hein? Peñas. Peña, c'est un endroit où on écoute la musique et on partage des moments. Mais dans ce cas-là, la musique était des musiques engagées et la discussion était portée sur la lutte. Et les organisations invitaient toujours des gens qui passaient en Europe ou qui venaient du Chili, soit semi-clandestinement, soit par démission. Et donc, on était toujours organisés pour participer ou solidariser avec la lutte chilienne. Bien sûr, chacun avait sa tendance politique, mais je pense que globalement, tous les Chiliens étaient à l'époque, je parle de quand je suis arrivé en France, 85. Et j'ai connu des exilés, j'ai un grand ami qui était bibliothécaire à Villeurbanne, et qui on avait des énormes. Parce que lui était la mémoire pour moi. Hein. Lui, il était en première ligne au jour des coups d'État. Donc, ça m'a apporté beaucoup de savoir du passé. Parce qu'il faut dire que, bon, coup d'État, j'avais 13 ans. Donc, il y avait une communication, il y avait une façon de réapprendre l'histoire. Parce que l'histoire, c'est l'histoire écrite, n'est toujours pas la véritable histoire. C'est mieux connaître les personnages réels de l'histoire.
Donc, il y avait tout un travail justement de transmission, de pédagogie, d'histoire. Est-ce qu'il y avait aussi de la solidarité avec ceux qui luttaient encore au pays? Est-ce que les concerts permettaient par exemple d'envoyer de l'argent, j'en sais rien, sur une sorte de solidarité concrète, comment ça se faisait?
Bien sûr, les groupes emblématiques chiliens, par exemple, Quilapayún était lié au Parti communiste chilien. Donc, c'était pratiquement fonctionnaire du parti, c'était il organisait des activités et beaucoup d'argent allait pour soutenir leur structure politique. C'est aussi le cas pour les mouvements de la gauche révolutionnaire qui avait un groupe qui s'appelait Carazú. D'ailleurs, il y a un livre qui vient d'être édité au Chili. Et ce groupe organisait des concerts et de l'argent était pour maintenir les structures au Chili. Il faut se dire que pour lutter en clandestinité, ce n'est pas évident. Bien sûr, il faut. Les choses les plus importantes au Chili à l'époque, je me rappelle, imprimer, avoir des imprimeries clandestines, les RONEO, préparer des matériels, organiser des protestations. Il y avait beaucoup de choses. Aussi, parfois, même s'il semble bizarre, on devait s'organiser pour acheter une guitare, parce que la guitare, c'est un instrument de résistance. C'est intéressant, ça, non?
Une guitare, c'est-à-dire que les gens ici en France s'organisaient pour acheter une guitare qui partait au Chili ou...
Non, on envoyait l'argent, mais là-bas, l'argent, été redistribué pour soutenir des projets culturels, par exemple. Je me rappelle qu'avant de venir, j'ai travaillé avec une organisation qui s'appelait, parmi tant d'organisations, les services de développement de la jeunesse. Là, il y avait des oppositeurs, mais qui étaient couverts par une partie de l'Église. Et là, il y avait toutes les tendances politiques dedans. Donc, on avait fait un projet pour acheter des guitares pour notre petit atelier dans la communauté de basse. Donc, on a eu deux guitares. On a eu un animateur qui faisait office de professeur de guitare. Et donc, bon, les chansons, c'était important. En plus, ça attirait les gens du quartier. Il faut se dire que c'est un quartier défavorisé. À l'époque, il y avait une crise économique importante. Parce que, bon, ça c'est. À notre volet, la partie économique, c'est compliqué à le dire, mais ça existait aussi. Donc, c'est pour ça que je reviens toujours à la musique, l'importance de la musique. Même si je ne suis pas musicien, mais j'ai participé, j'ai même chanté avec un groupe qui s'appelait Neltigwe, un mot mapuche qui signifie libération. Voilà. C'est pour se rappeler du Chili. Mais ici, je n'ai pas participé dans des groupes de musique. J'ai participé à la FAL, j'ai participé dans des autres organisations, moins visibles, si tu veux. Mais l'idée, toujours présente, c'était la solidarité avec le Chili. J'aime pas le mot solidarité dans un sens. J'aimais bien ce mot, l'internationalisme aussi. Parce qu'il faut se rappeler qu'on ne s'occupait pas seulement du Chili, hein. Il y avait des dictatures, il y avait des luttes importantes comme au Nicaragua, El Salvador, etc. Et donc, il y avait quelque chose à apporter aussi dans ces luttes. Il y a des amis à moi qui se sont battus des côtés du Front Sandiniste, par exemple, des gens qui avaient mon âge, qui ont lutté sur place. Moi, j'ai resté ici.
Du coup, il y avait aussi du coup des Villeurbanne, des gens du Nicaragua, d'Argentine. Enfin, tout le monde se mélangeait, quoi. Tout le monde se retrouvait sur un même internationalisme, comme tu disais.
Bien sûr, mais même s'il n'y avait pas de Nicaraguayens, on savait de la lutte des Sandinistes, on savait déjà, et on savait qu'il y avait des Chiliens ou des autres nationalités latino-américaines impliquées dans la lutte, et on la soutenait parce qu'il nous semblait important. Nicaragua est plus près des États-Unis que le Chili, mais c'était une question politique. Politique, c'est un combat anti-impérialiste, pour résumer.